If you wanna grind it, wait till you've refined it. If you wanna bump it with a trumpet. Get yourself a gimmick and you too can be a star.
Steven Sondheim, parolier aussi dans Gypsy, que le public français découvrira pour la première fois en France, grâce à Nathalie Dessay, ça sera à la Philharmonie de Paris et à l'Opéra de Nancy. Dans les prochains mois, You Gotta Have a Gimmick, c'était Bernadette Peters, Anna Jane Casey et Bonnie Langford. Et puis auparavant, une judicieuse mise en abîme d'un titre célèbre de Steven Sondheim, I'm a Broadway Baby, je suis un enfant de Broadway, l'hymne de toutes les stars qui ont foulé les planches là-bas à New York. Seulement, au lieu qu'il soit chanté par une seule personne, comme c'est le cas dans la comédie musicale dont c'est tiré, Follies, elle était interprétée par toutes les stars de la revue. Alors, par ordre d'apparition, vous aviez Helena Bonham Carter, quand même, Bernadette Peters, Rosalie Craig, Jenna Russell ou encore Julia McKenzie. Et puis auparavant, vous avez reconnu forcément le Quintet Tonight de West Side Story, puisque West Side Story était composé par Leonard Bernstein, mais c'est bien Steven Sondheim qui avait écrit les paroles.
France Musique, 42e rue, Laurent Vallière.
42e rue qui débute cette année avec un concert, comme chaque année, un concert qui célèbre l'œuvre de Steven Sondheim et qui continue avec un air emblématique du compositeur. C'est peut-être l'hymne de toutes les anciennes vedettes de théâtre et de musical qui racontent qu'elles veulent encore brûler les planches. Cet extrait de Follies, ça s'intitule I'm Still Here, je suis toujours là. Et ce soir-là, au Steven Sondheim Theatre, c'était interprété par Petula Clark.
Good times and bum times, I've seen them all, and my dear, I'm still here. Blush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer, but I'm here. I stuffed the dailies in my shoes, strung ukuleles, sang the blues. Seen all my dreams disappear, but I'm here. I've slept in shanties, guest of the WPA, and I'm here. Danced in my scanties, $3 a night was the pay, and I'm here. I stood in bread lines with the best, watched while the headliners did the rest. In the depression, was I depressed? Nowhere near. I met a big financier, and I'm here. I've been through Gandhi, Windsor and Wally's affair, and I'm here. Amos and Andy, Mahjong and platinum hair, and I'm here. I got through AB's Irish Rose, 5D on babies, major bones, had heebie-jeebies for BB's bathysphere. Look it up. Swooned over Greta Garbo, and I'm here. I've gotten through Herbert and J. Edgar Hoover. Gee, that was fun and a half. When you've been through Herbert and J. Edgar Hoover, anything else is a laugh. Yeah. I've been through Reno, I've been through Beverly Hills, and I'm here. Reefers and vino, rescuers, religion, and pills, and I'm here. Being called a pinko, call me too. Got through with stinko by my pool. I should have gone to an acting school. That seems clear. So, someone said, she's sincere, so I'm here. Like sable one day, next day, it goes into hock. But I'm here. Top billing Monday, Tuesday, you're touring in stock. But I'm here. First, you're another slow advance. Then someone's mother. Then your camp. Then you career from career to career. I'm almost through my memoirs. And I'm here. Yeah. I've gotten through. Hey, lady. Aren't you? Who's it? Wow, what a looker you were. Or better still, sorry, I thought you were. Who was it? Whatever happened to her? Good times, fun times, I've seen them all, and my dear, I'm still here. Plush velvet sometimes, sometimes just pretzels and beer. Well, I'm here. Run the gamut, A to Z, three cheers and damn it, c'est la vie. I got through all of last year, and I'm here. Lord knows at least I was there, and I'm here. Look who's here.
Leave you, how could I leave you? How could I go it alone? Could I wave the years away with a quick goodbye? How do you wipe tears away when your eyes are dry? Sweetheart, lover, could I recover? Give up the joys I have known? Not to fetch your pills again every day at 5. Not to give those dinners for 10 elderly men from the UN. How could I survive? Could I leave you and your shelves of the world's best books and your evenings of martyred looks, cryptic sighs, sullen glares from those injured eyes? Leave the quips with a sting, jokes with a sneer, passionless lovemaking once a year. Leave the lies ill-concealed and the wounds never healed and the games not worth winning. And wait, just beginning. What? Leave you, leave you. How could I leave you? What would I do on my own? Putting thoughts of you aside in the south of France, would I think of suicide? Darling, shall we dance? Could I live through the pain on a terrace in Spain? Would it pass? It would pass. Would I bury my rage with a boy half your age in the grass? Bet your ass. But I've done that already. Or didn't you know, love? Tell me, how could I leave when I left
long ago. Love, could I leave you? No, the point is, could you leave me? Well, I guess you could leave me the house, leave me the flat, leave me the Brocks and Chagalls and all that. You could leave me the stocks for sentiment's sake, and 90% of the money you make, and the rugs and the cooks. Darling, you keep the drugs, Angel, you keep the books. Honey, I'll take the grand sugar, you keep the spinet, and all of our friends, and just wait a goddamn minute. Leave you, leave you, how could I leave you? Sweetheart, I have to confess. Could I leave you? Yes. Will I leave you? Will I leave you?
It's gonna come true, baby. They think that we're through, but baby, you'll be swell, you'll be great, gonna have the whole world on a plate, starting here, starting now, honey, everything's coming up. Roses, clear the decks, clear the tracks. You got nothing to do but relax, blow a kiss, take a bow, honey, everything's coming up. Roses, now's your inning, stand the world on its ear, set it spin. Just the beginning, curtain up, light the lights. You got nothing to hit but the heights. You'll be swell, you'll be great. I can tell, just you wait. That lucky star I talk about is dirt. Honey, everything's coming up roses for me. Bell, follow me, and nothing's gonna stop us till we're through. Honey, everything's coming up, roses and daffodils, everything's coming up, sunshine and Santa Claus, everything's gonna be bright lights and lollipops.
On la connaît parce qu'elle a interprété la reine Elizabeth dans la série The Queen, Imelda Staunton, mais elle a aussi un puissant filet de voix, on peut le dire. C'était une chanson extraite d'une comédie musicale dont Stephen Sondheim, comme pour West Side Story, a écrit uniquement les paroles, sorte de portrait féroce d'une mère abusive qui vit par procuration à travers ses filles et veut en faire à tout prix des stars. C'était un extrait d'une comédie musicale qu'on verra très bientôt à la Philharmonie de Paris, Gypsy. Et puis auparavant, le cri aussi, normalement d'une femme trompée, dans Follies, qui pour une fois est interprétée par un homme. Est-ce que tu crois que je vais te quitter? Could I leave you? Est-ce que tu veux me quitter pour une autre? Ou est-ce que tu crois que je vais me laisser faire? C'était interprété, cet air, par Michael Ball. Et là, le concert prenait une tangente, on va dire. On entrait dans quelque chose d'encore plus émouvant. Voici par exemple une magnifique ballade sentimentale de séparation et de chagrin. Je vous traduis les paroles. Pas un jour ne passe, pas un seul jour sans que tu sois quelque part dans ma vie. Et il semble que tu y resteras.
Not a day goes by Not a single day But you're somewhere a part of my life And it looks like you'll stay As the days go by I keep thinking Does it end? That it can't get much better, much longer. But it only gets better and stronger and deeper and nearer and simpler and freer and richer and clearer. You somewhere come into my life, and you don't go away.
And I have to say, if you do, I'll die.
I walk day after day after day after day. After day, after day, after day, after day, after day,
till the days go by. Somebody hold me too close. Somebody hurt me too deep. Somebody sit in my chair and ruin my sleep and make me aware of being alive. Being alive.
Need me to
Somebody need me too much.
Somebody know me too much.
Somebody know me too.
Somebody pull me up short and put me through hell and give me support for being alive.
Make me alive. Make me alive.
Make me confused. Mock me with praise. Let me be alone.
Make me confused.
Yes, alone.
Mock me with praise.
Let me be used.
Every night, every
night. Be
us now to show.
It's Our Time, c'est notre temps, un hymne à la jeunesse, à la modernité, à l'espoir, extrait de la comédie musicale de Stephen Sondheim, Merrily We Roll Along. Tout ce qu'il nous faut comme énergie pour aborder cette nouvelle année. C'est ainsi que se refermait ce concert donné le 3 mai 2022 à Londres, au Stephen Sondheim Theatre, Old Friends, conçu et produit par Cameron McIntosh, mis en scène par Matthew Bourne et Maria Friedman sous la direction musicale d'Alfonso Casado Trigo. Un spectacle qui ouvrira en mars prochain à Broadway avec d'autres têtes d'affiche, parmi lesquelles Bernadette Peters et Léa Salonga. On aura bien sûr l'occasion de vous raconter cela sur la 42e rue. Un concert d'ailleurs qui résonne déjà avec de futures émissions. Le 26 janvier, je consacrerai toute une émission à la carrière de cet artiste exceptionnel, peu connu en France, Bernadette Peters. Et puis le 2 février, je vous proposerai la seconde partie de mon entretien avec le producteur de cette soirée, qui fut aussi le producteur, qui est aussi le producteur des Misérables, Cameron McIntosh. J'en profite pour saluer tous les comédiens qui aujourd'hui entament leur dernière représentation des Misérables au Théâtre du Châtelet et pour les remercier aussi de nous avoir fait de très beaux cadeaux pour vous, chers auditeurs, en venant plusieurs fois sur la 42e rue. Je ne peux d'ailleurs que vous conseiller, si vous ne l'avez pas encore fait, de vous brancher sur la chaîne YouTube France Musique Concert pour regarder en intégralité 42e rue fait son show, la 7e édition de notre grande soirée annuelle. 2h20 de musique et de théâtre musical, c'est gratuit. Enfin, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour notre premier concert en direct. Nous aurons le bonheur de recevoir Lambert Wilson et de nombreuses autres troupes de comédie musicale en avant-première. Vous le savez, les réservations, c'est sur maison de la radio et de la musique.fr. Et si c'est complet, vous n'hésitez pas à venir vers 11h. Il reste toujours des places. Merci à Jeanne Agrapard pour le site internet, à Amandine Frichou pour le mixage, à Céline Parfenoff à la réalisation, Laurent Vallière, on vous souhaite tous une très bonne année.
Découvrez la grande histoire de l'opérette par Benoît Dutertre. Des Folies d'Offenbach à la Belle Époque de Messager, en passant par Johann Strauss, Franz Lehár, Gilbert et Sullivan ou encore l'opérette soviétique. Un voyage dans le temps illustré par des témoignages et par les plus belles voix. La saga, la grande histoire de l'opérette, c'est ce dimanche à 14h30 sur France Musique et quand vous voulez sur le site et l'appli Radio France. Musique Matin de 7h à 9h, Gabriel Olivier Aguillon, France Musique.
Du jazz pour commencer la semaine avec la chanteuse, auteure et compositrice Marion Rampal, victoire du jazz 2022. Elle vient nous présenter son dernier disque et sera en tournée partout en France, une tournée qui commence cette semaine. Avec nous demain à 8h30, Marion Rampal.
Musique Matin, une émission France Musique, à retrouver sur radiofrance.fr et l'appli Radio France.
France Musique.
Merci d'écouter France Musique. Il est 13h30, c'est l'heure de la danse tous les dimanches sur France Musique. Bonjour Hippolyte Pérez.
Bonjour Laurent Vallière.
Quand tu plies bien comme ça, que tu vas bien avec le regard jusqu'au bout du doigt, c'est beaucoup plus net, hein, ça prend de l'ampleur, c'est beaucoup mieux.
Tout ça, c'est la danse.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses? Ça me fait plutôt du bien.
France Musique, au cœur du ballet. Hippolyte Pérez.
La danseuse étoile Yvette Chauvieret, premier épisode. Elle a porté la danse à un point extrême de pureté, à la manière d'un Matisse ou d'un Racine, tout en se remettant sans cesse en question. C'est ainsi que le réalisateur Dominique Delouche, qui a travaillé avec elle, l'a décrit. Grande danseuse étoile, on se souvient d'elle pour son interprétation magistrale du rôle de Gisèle tout au long de sa carrière. C'est le public qui le dit, lorsqu'elle entrait en scène, elle captivait, elle envoûtait. Le spectateur oubliait où il était et était transporté dans un autre monde. Aujourd'hui, nous parlons de la prima ballerina assoluta Yvette Chauvieret. Bonjour à tous et bienvenue au cœur du ballet. 22 avril 1917. Alors que la France est en guerre, naît une jeune Yvette. Elle voit le jour dans le 14e arrondissement de Paris. Durant son enfance, elle fréquente l'école Ballard et se lie d'amitié avec un voisin qui a un an de plus qu'elle, Raymond. Ils ont 6 et 7 ans, lui pratique le piano, il est extrêmement doué. Mais il est tout aussi talentueux en danse. Bientôt, il quittera le 14e arrondissement car il intègre l'école de danse de l'Opéra de Paris. Yvette aussi danse, mais à l'origine, elle n'avait aucune envie de se professionnaliser, elle était encore toute jeune. Mais c'est la mère de Raymond qui lui dit « Essaye, tente le concours ». Elle se rend alors à l'Opéra Garnier, il n'y avait pas encore le bâtiment de l'école de danse, donc tout se passait à Garnier. 300 petites filles sont avec elle, et finalement, 15 sont admises. Aujourd'hui, le bâtiment de l'école de danse est à Nanterre. Mais à l'époque, l'école de danse était intégrée au Palais Garnier. Ces studios existent toujours, ils servent de lieu de cours ou de répétition pour les danseurs du corps de ballet. Yvette raconte ses années à l'école de danse. Notamment un jour où elle s'était un peu trop attardée dans les vestiaires avec les autres élèves, elle parlait du film Le fantôme de l'opéra qui venait de sortir en été en 1925. Les élèves se rendent compte qu'elles sont en retard, courent à travers tout le Palais Garnier jusqu'à la salle de danse. Là, elles tombent sur leur professeur qui leur interdit de prendre le cours et leur dit « Vous ferez la barre au milieu, pendant 8 jours, ça vous obligera à réfléchir. » Alors la barre au milieu, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'un cours de danse commence toujours par le travail avec la main posée sur la barre. Et là, la barre au milieu, c'est simplement qu'on est au centre du studio, et donc qu'on ne bénéficie pas de la barre pour s'aider à travailler. Bien sûr, c'est bien plus difficile, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas encore beaucoup de force. Mais c'est aussi un très bon travail, parce qu'on se rend compte vraiment de ce qu'on n'est pas capable de faire sans la barre.
À l'âge de 10 ans, on m'a fait entrer à l'Opéra de Paris. Et ben, après examen médical, examen... Voilà, je suis entrée avec... Nous étions assez nombreuses, puis les examens ont passé, puis je suis montée dans la classe supérieure, avec d'autres évidemment, deux classes, et après nous sommes entrées dans le ballet.
L'année 1929, Yvette Chauviré participe à la création du ballet L'Éventail de Jeanne. En fait, c'est Jeanne Dubost qui tenait un salon à Paris, lieu de rencontre de musiciens et d'artistes en tout genre. Notamment le groupe des Six, composé de Germaine Taillefer, bien sûr, mais aussi de Darius Milhaud, Georges Auric, Louis Duret, Arthur Honegger et Francis Poulenc. Et il se trouve que chacun d'entre eux avait offert à Jeanne Dubost une œuvre. Elle a fabriqué un éventail de ses œuvres reçues en cadeau et plus tard, elle souhaite en faire un ballet. Le ballet s'appelle donc « L'éventail de Jeanne » et à propos de la partition de Georges Auric, Chauviré écrit que Elle était presque comme une musique de revue, très 1925, et nous levions les jambes sur les côtés, comme les girls. Le ballet a eu un tel succès que nous fûmes ensuite invités à la Monnaie de Bruxelles, et plus tard en Suisse et à Monte-Carlo. Alors je vous propose qu'on écoute la partie du ballet composée par Georges Auric.
Tombée amoureuse véritablement de la danse au sens classique du terme, au sens du travail assidu, acharné, quotidien.
Oui, vous avez raison de dire ça, parce que bon, avant c'était simplement dans mon esprit, comme ça, dans mon âme, mais on m'a tout fait très vivement comprendre, les professeurs étaient sévères, et j'ai compris qu'il fallait vraiment écouter et travailler sérieusement. Donc j'ai quand même travaillé, j'étais très obéissante, et j'ai suivi les conseils des professeurs. Et j'ai eu des professeurs qui sont intéressés à moi, maître Aveline, qui était maître de ballet, qui avait été le partenaire de Carlotta Zambelli, qui était un très bon danseur, etc. Et donc je suis arrivée, remontée les échelons après les examens, je suis arrivée quand même petit sujet, puis grand sujet.
Voilà, à ce moment-là, Yvette Chauvieret raconte qu'elle gravit les échelons de la hiérarchie de l'Opéra de Paris. Mais c'est l'Opéra de Paris des années 30, donc ce n'est pas comme aujourd'hui, où on peut être engagé à 18 ans. À l'époque, on devenait professionnel à l'âge de 12 ans. En fait, il fallait simplement avoir le certificat d'études. C'est vraiment une autre époque. Il faut s'imaginer qu'il y avait des feux de bois dans les cheminées partout dans le palais Garnier, parce que bien sûr, il n'y avait pas le chauffage central.
Vous vous souvenez d'une certaine Laetitia Coy?
Ah, Laetitia Coy, bien sûr, c'était mon professeur pendant 7 ans.
Elle avait des méthodes un peu rudes, non?
Elle était très sévère. Et plus tard, nous sommes devenus très amis. Elle m'a expliqué pourquoi. Elle était très sévère parce qu'elle-même, elle n'avait pas vraiment su, pas dû comprendre vraiment la nécessité de discipline. Et elle ne voulait surtout pas que nous nous laissions aller à une certaine indiscipline. Et après, on le paye très cher. Alors, elle était très rigoureuse.
Vous vous souvenez de vos premiers petits rôles?
On s'en souvient toujours, vous savez, Négrillon, soit dans le ballet de Faust, soit dans Aïda. Dans Aïda, une fois, on l'a dansé le dimanche au palais du Trocadéro. C'était pas le palais Chaillot, à l'époque, c'était un grand monument assez curieux, un peu oriental, bizarre, il n'est pas très beau, mais la scène n'était pas très grande, c'était loin d'être la scène de l'opéra, mais on donnait le dimanche ou Faust, ou Roméo Juliette, ou Aïda. Et un beau jour, un beau soir, ou peut-être une matinée, je ne m'en souviens plus, nous faisions donc les petits négrillons. Alors nous étions quand même à peut-être 18 au moins, si c'est peut-être 24, 12 de chaque côté, c'est possible. Et il est arrivé une chose, que moi j'avais été remplaçante, d'abord. Et ce jour-là, dimanche, la fille qui était titulaire n'était pas là. Alors j'ai dû prendre sa place. Mais la perruque, elle devait avoir une tête beaucoup plus grosse que moi. Si bien qu'on m'a dit, allez, vite, dépêche-toi. On m'a mis là. On m'a placé la perruque sur le crâne. Et puis je suis partie comme ça, et j'ai dansé avec tout le monde. Mais avant, pour précéder l'entrée, comment ça s'appelle, je ne sais plus comment, le vainqueur sur les Éthiopiens, vainqueur égyptien sur les Éthiopiens, il y a une superbe entrée du corps du ballet, et nous étions entrés juste avant, et sur deux accords énormes de grandes cymbales qu'il y a dans l'orchestre, et nous on fout aussi, on frappait avec nos cymbales, nous nous mettons à genoux, on lève les bras au-dessus de la tête, et sur l'accord final, on met d'un coup, on baisse la tête sur le plancher. À ce moment-là, je sens que ma perruque est sur le sol.
Quelle horreur.
L'horreur. Et alors, quand on s'est retourné sur les pieds, bien vu que je prenne rapidement ma perruque et la mette Dieu sait comment, toutes mes copines se mettent à rigoler, on était secoués par les rires, et on continuait à faire les lissages jetés, tout ce qui nous était imposé, dans la plus grande discipline possible, on était secoués par le rire. Alors ça a été, je ne pouvais pas m'arrêter de rire, je poussais des petits cris de souris, c'est une anecdote comique.
Yvette Chauviré parle de ses premiers rôles et de ses professeurs. Et il y en a un qui a beaucoup compté pour elle, c'est Victor Gzwoski, qui est aussi chorégraphe. Il créera pour elle, un peu plus tard, son fameux grand pas classique. C'est un pas de deux sur la musique de Daniel François Esprit Auber. Elle ne le dansera pas à l'opéra, mais au Théâtre des Champs-Élysées.
France Musique, au cœur du ballet, Hippolyte Pérès.
L'année 1941, Yvette Chauviré avait l'impression de n'avoir rien d'intéressant à danser à l'opéra. Mais un jour, sur le tableau de service, elle voit qu'il est écrit « Istar », répétition au foyer de la danse, Serge Liffard et Yvette Chauviré. Elle rentre chez elle, consulte son dictionnaire pour voir qui était ce Istar, probablement un personnage mythologique. La musique est de Vincent Dadi. C'est un ballet qui avait déjà été créé par l'opéra, par la danseuse Ida Rubinstein en 1924. Mais là, Liffard allait créer une nouvelle chorégraphie. Chauviré, quand elle parle de ses répétitions avec Liffard, dit « Il y avait une vraie communion entre nous et je sentais à l'avance les mouvements qu'il allait me demander. » Il était exigeant aussi. Un jour, il a déclaré « Bon, maintenant, vous allez tout faire depuis le début. Vous allez crever, mais il faut le faire. » Quand je vous disais tout à l'heure que c'était une autre époque, c'est vrai. C'est une période avec un théâtre de l'opéra qui est beaucoup plus artisanal. Pour ce ballet, c'est Chauviré elle-même qui a fabriqué son costume. Elle n'avait d'ailleurs jamais dansé avec un vrai décor de ballet, alors elle était surprise la première fois qu'elle est arrivée sur le plateau et qu'elle a vu la mise en scène avec en plein milieu une fontaine. Elle était intimidée, mais va quand même voir l'accessoiriste en lui disant « Je dois faire des diagonales, des manèges, je ne peux pas danser avec ce décor, il n'y a pas la place. » L'accessoiriste dit « Oh bah non, c'est ça le décor. » Mais bien sûr, quand Liffard est arrivé, il a dit « Qu'est-ce que c'est que ce fatras ? Enlevez ça tout de suite. » La première représentation du ballet Istar est prévue pour la fin de l'année, le 31 décembre 1941. Yvette Chauviré ne sait pas encore qu'à l'issue du spectacle, elle sera nommée danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Après cette représentation, Yvette Chauviré est nommée danseuse étoile de l'Opéra de Paris. Mais c'est une nomination en demi-teinte. En fait, au moment où elle est nommée, elle est extrêmement heureuse. Mais ensuite, elle se rend compte que le ballet n'est plus donné. Et à cette époque, il était impossible, ou du moins très mal vu, d'aller voir la hiérarchie de l'opéra pour leur demander pourquoi on ne produit plus tel ou tel ballet. Même à Liffard, elle n'ose pas le demander. En fait, elle réalise qu'on ne donne plus ce ballet parce qu'elle était un second choix. On le lui a fait danser uniquement parce que les autres n'étaient pas disponibles, et pour elle, le coup est terrible. À ce moment-là, Yvette Chauviré est encore jeune, elle n'a que 24 ans. Tout au long de sa carrière, elle aura tout le temps de faire ses preuves et elle s'illustrera notamment dans un rôle, celui de Gisèle. C'est un ballet qu'elle a d'abord vu étant enfant. Alors je vais dire quelque chose qui paraît évident, mais qui a permis une grande évolution dans l'apprentissage de la danse, ce sont les vidéos. Et c'est encore plus vrai avec Internet. C'est-à-dire que nous, jeunes danseurs, qui avons commencé notre formation dans les années 2000-2010, eh bien, on a déjà vu tous les grands ballets sur YouTube, par exemple. Et souvent, on connaît déjà la chorégraphie à force de regarder ces vidéos. Mais là, quand Chauviré voit le ballet pour la première fois, étant jeune danseuse, elle découvre tout. Et dans les années 30, le ballet Gisèle avait déjà presque un siècle. Il était donc transmis de génération en génération, uniquement par la parole ou par des sensations de mouvement. Alors bien sûr, le ballet ne ressemblait sans doute en rien à ce qu'il était en 1841 à la création. Yvette Chauviré écrit « Lorsqu'en 1939-1940, on me distribua dans le rôle de Myrta, la reine des Vilis, je composais un personnage bien caractérisé, avec une présence hautaine dans les pantomimes, beaucoup d'intensité dans les attitudes. En faire un rôle de composition m'intéressait, tout comme le travail technique où je pouvais mettre à profit ce que m'enseignait Boris Niassef et qui s'ajoutait aux arabesques lyriques apprises avec Liffard. » La presse s'étonnait que l'on ne me confia pas le rôle-titre. J'allais jusqu'à poser la question à M. Roucher qui répondit évasivement « Bien sûr, vous la danserez, mais vous êtes très jeune. Il faudra que l'occasion se présente. » Gisèle, c'est l'histoire d'une paysanne qui se fait avoir par un duc. Et quand elle se rend compte qu'il est déjà fiancé, elle meurt de chagrin et en change de monde, celui où elle devient une Vili, c'est-à-dire une créature, une femme morte par amour qui veut faire danser l'homme qui l'a trahi jusqu'à la mort. Yvette Chauviré a dansé le rôle-titre de Gisèle toute sa vie. Au bout de la 150e fois qu'on l'interprète, on peut s'ennuyer, ne plus rien trouver dans le rôle. C'est assez commun que des danseuses rêvent de danser Gisèle au début de leur carrière, mais au bout d'un moment, veulent se tourner vers un répertoire complètement différent. Et c'est pour cette raison que toute sa vie, Yvette Chauviré s'est interrogée sur les raisons qui l'a poussée à danser Gisèle. Elle se demande si le personnage est proche de sa nature intime et écrit « J'ai une grande honnêteté dans mes sentiments amoureux. Gisèle avait cette sincérité. Un baiser, pour moi, n'avait rien de frivole, c'était important. » Quand il lui prend la main et l'embrasse, ses sentiments à elle sont si purs qu'elle ne peut imaginer qu'il en soit autrement pour lui. Il y avait de cela en moi, cette fois, dans les grands sentiments. Pour moi, tout avait de l'importance. Un regard, le contact d'une main. Je n'avais aucune difficulté à croire au personnage de Gisèle, je ne pouvais pas aimer à moitié. Ce rôle, je l'ai toujours vécu intensément, sous toutes les latitudes, dans des contextes parfois ingrats, parfois glorieux, mais souvent émouvants. Au cœur du ballet, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Marie Ferdinand, réalisée par Doria Zénine et mise en onde par Valérie Lavalard. Vous pouvez réécouter cet épisode sur francemusique.fr ou sur l'appli Radio France.
Radio France fête ses 50 ans. 50 ans de curiosité satisfaite.
Qu'est-ce qui restera dans 1000 ans ?
On s'aperçoit que c'est une bêtise parce que la plupart du temps, quand au cinéma c'est bien cadré, c'est tout mis en place pour que tout soit dans le cadre, tu sais, qui est vraiment...
Notre mission est d'aller chercher beaucoup plus loin qu'auparavant.
Et quand on regarde la peinture, ça m'a encore frappé l'autre jour. À quel point les peintres sont libres.
Voilà, pour les versions 2, 3 et 5 d'Obsessionnel.
Bon, un tout petit pause.
Il y a le swing dès la contrebasse, évidemment. Enfin, le swing, entre guillemets.
Et puis, boum. Bolero.
Cette formule qui se répète, sur laquelle tout doit s'agréger.
Vous faites ça très bien.
N'est-ce pas? Je fais une bonne petite harmonie.
Aïe, c'est quand même mal placé ces gargouilles.
Que savons-nous des pratiques sexuelles et dans ces pratiques sexuelles, de la sexualité féminine? Pas tant de choses que ça.
J'ai complètement oublié ce morceau que je vois pour la première fois en 10 ans. Je le laisse à vous. Et si vous jouez très beau, je battrai.
C'est le sentiment d'une renaissance, c'est-à-dire d'un renouveau complet du regard des hommes sur eux-mêmes et sur le monde qui les entoure. Et ce renouveau a été fabuleux.
Cela fait 50 ans que nous partageons tout cela, et il nous reste tant à vivre ensemble.
France Musique.
Je vous souhaite une très belle après-midi. Il est 14h, vous avez rendez-vous avec Philippe Venturini.